Savez-vous que nous tapons en moyenne entre 50 et 80 mots par minute, alors que nous parlons naturellement entre 150 et 180 mots? Notre voix va donc trois fois plus vite que nos doigts. Alors pourquoi continuer à taper quand on peut simplement parler? Dans cet épisode, je reçois Luc Maronjou, auteur de l'application open source Murmure, application qui transcrit votre voix en texte et qui va même plus loin en la connectant avec un LLM. DevDevDev.net, épisode 83, c'est parti! Bien, et ben bonjour, bienvenue pour ce 83e épisode de DevDev.net. Aujourd'hui, on ne va pas parler de .NET, on va parler plutôt de notre environnement de travail avec les outils qu'on peut utiliser, et notamment un outil qui, avec l'arrivée des LLM, est quelque chose d'un petit peu indispensable, c'est-à-dire de pouvoir dicter son texte de façon rapide à l'intérieur des zones de saisie. Et pour cela, je reçois Luc Marion. J'étais sûr que j'allais bugger. Donc Marion
Maranjou, c'est italien.
Maranjou, voilà. Bonjour.
Bonjour Richard et bonjour
Donc,
Laurent. Salut Luc.
et on a également toujours notre Yoda préféré, donc Laurent Campé, Microsoft MVP depuis 2003, catégorie développeur technologie, team leader et distinguished solution architect chez Tinubu. Alors Luc, toi t'es quoi? Alors j'ai vu sur LinkedIn, t'es senior front engineer, mais encore.
Alors, de base, moi, je suis un développeur dit full stack, donc je peux travailler sur front-end, back-end, un peu tout. Mais j'ai une forte spécialisation dans le front-end, donc dans le développement des interfaces donc entre l'homme et la machine. Et je me suis pas mal intéressé à ça, à tel point que j'ai commencé aussi à apprendre ce qu'on appelle l'UX/UI, donc l'ergonomie utilisateur, comprendre le besoin d'utilisateur et comment faire des interfaces qui sont un peu sympas. Et voilà, et j'ai une petite expérience aussi. Enfin, j'ai une petite expérience. Je suis resté plus de 10 ans à Air France en travaillant sur le site www.airfrance.fr, mobile.airfrance.fr, etc. Donc, c'est là que vient principalement mon expérience et aussi un petit peu en management, mais c'est un peu moins intéressant.
J'ai dû râler une ou deux fois.
Alors, je travaillais sur la version qui n'existe plus aujourd'hui d'EastWeb d'Air France, parce que en fait, Air France et KLM ont fusionné depuis plusieurs années maintenant, et ils ont une IT commune, et du coup, ils ont sorti un tout nouveau site qui a remplacé les deux sites anciens qui étaient Air France et KLM. Maintenant, c'est Air France KLM, et du coup, moi, je suis parti à ce moment-là.
D'accord, qui se débrouille.
Non, c'est ils m'ont non, moi c'est une super expérience à Air France. Ils m'ont proposé de
Ouais.
rester, mais les technologies ne me plaisaient pas.
D'accord. Ok, et donc alors si on te reçoit aujourd'hui, c'est parce que tu as sorti un produit que j'avais vu parce qu'il y a Laurent qui avait fait un post sur LinkedIn dessus, qui s'appelle le Murmure. Alors est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que c'est que ce Murmure?
Murmure, c'est une application open source de dictée vocale, donc qui transforme la voix en texte, ce qu'on dit speech to text, parfois c'est le terme qu'on utilise. Elle est entièrement offline, elle a une attention particulière sur la protection de la donnée, notamment vocale, j'espère qu'on en reviendra après, mais c'est une donnée qui est importante à protéger, qui fonctionne sans aucun tracking, ni télémétrie, qui est faite pour être invisible en termes de performance. Donc, parce que c'est un outil qu'on va utiliser au quotidien, donc c'est important qu'elle fasse pas freeze l'ordinateur et qu'elle demande peu de ressources, et qui fonctionne du coup sur tous les champs de tous les logiciels et terminaux, que ce soit sur Windows, Mac et Linux, et tout ça entièrement gratuit et sans aucun compromis. Il n'y a pas de pack payant ou quoi que ce soit.
D'accord, il n'y a pas de trucs bizarres qui se passent à l'intérieur du code hein,
Non.
pour récupérer des données ou ce genre de choses, quoi.
C'est la raison pour laquelle le code est open source et c'est un client lourd, hein, il n'y a pas de serveur ou de connexion. Et tout le monde peut auditer le code. Bien sûr, bon, je comprends que ça peut être un peu contraignant. Tout le monde n'est pas technique en plus de ça. C'est pour ça que j'essaie de mettre des rapports, notamment SonarQube, qui sont des outils qui analysent de manière statique le code et qui donnent une certaine note. Et ça, pour le coup, c'est facile à consulter. Et voilà.
Aujourd'hui, tu sais, avec l'AI aussi, tu peux demander à un agent ce genre de poser ce genre de questions sur ton repository pour avoir cette espèce de vérification, quoi, sans être un expert, quoi, en fait.
C'est vrai, je ne sais pas du tout ce que ça donne sur Murmure, mais je ne l'ai jamais fait. Mais oui.
J'ai pas essayé. J'ai essayé pour une fonctionnalité, mais j'ai pas essayé pour. Je t'ai fait confiance.
Ok, alors Murmure, donc en gros, c'est donc une application. Je ferai une petite démo en background pour montrer ce que ça donne. Donc c'est n'importe quelle zone de texte, on peut l'activer. Et à ce moment-là, ça traduit en texte ce qu'on a dit en vocal, quoi.
C'est ça. Bah c'est au final, on peut le résumer, c'est juste un logiciel en background hein, qui tourne en fond, qui va s'activer quand on va appuyer sur des raccourcis qu'on aura décidés et va enregistrer la voix. Puis, à la fin de l'enregistrement, va écrire et transcrire ce qu'on a dit.
Oui, ce qui est bien, c'est justement il y a cette histoire de pouvoir personnaliser déjà les raccourcis. Alors on verra qu'il y a, il y a deux types de raccourcis, si je ne m'abuse, puisque le premier raccourci qui utilise une première technologie, un deuxième raccourci qui utilise une technologie avec un LLM qu'on peut utiliser en local, quoi.
Alors, j'aime beaucoup cette présentation-là parce que c'est exactement le cas. En fait, il y a une version optionnelle parce que je sais que la plupart des utilisateurs, ils n'ont pas forcément, ils n'ont pas envie d'avoir une IA qui tourne localement, soit pour des raisons de performance, soit parce qu'ils n'aiment pas l'IA, pour X raison. Donc, c'est optionnel. Donc, ça, c'est la deuxième partie. C'est la partie post-processing avec un LLM que moi, j'utilise tous les jours et qui est très puissante. On en reviendra après. Mais la première partie, la partie principale, c'est la transcription elle-même qui est embarquée et qui n'a besoin de rien d'autre que d'installer Murmure pour fonctionner, donc qui est clés en main. Et ça, c'est la transcription pure.
D'accord. Alors justement, côté technologique, tu utilises quoi comme technologie pour faire cette traduction?
Non, juste avant ça, je dois dire que moi, je l'adore, cette application. C'est pour ça que j'avais posté dessus aussi. Je l'ai installée sur le Stream Deck. Ça fait un an et demi que j'avais le Stream Deck. Je n'avais pas grand-chose dessus. J'ai Murmure dessus. J'ai un autre bouton, c'est pour la version avec le LLM, et un bouton sans le LLM. Ça marche franchement nickel.
Oui, moi voilà. C'est pareil. Ouais. Moi, je le fais avec les raccourcis clavier. Je fais pas. J'ai beau avoir un Stream Deck, j'utilise les raccourcis clavier. Mais c'est vrai que ça me donne une idée, ça. Il faudrait peut-être que je le rajoute.
Moi, je l'ai mis sur la souris pour éviter même de taper au clavier.
C'est pas con, ça. Moi, j'ai trop de raccourcis clavier que j'utilise. C'est difficile d'en retrouver un qui est convenable, quoi. Enfin, qui est pratique, quoi.
Donc, pour revenir à ma question. Vas-y.
Oui, voyons ce qu'il y a sous le capot de Murmure. Alors, Murmure, donc j'utilise un framework, on va appeler ça comme ça, qui s'appelle Tori. Donc Tori, c'est assez nouveau. C'est un concurrent de Electron. Donc Electron, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une façon de développer des logiciels qui sont embarqués dans un Chromium invisible, donc un navigateur invisible. Mmh. Et en fait, bon, quand on est développeur, on connaît, parce qu'on utilise VS Code, c'est du Electron. Il y a énormément d'applications qui sont sous Electron. Je pense même que Teams qu'on utilise là, ça doit être... si vous utilisez le desktop, ça doit être du Electron ou pas loin. Mmh. Par contre, Electron a deux inconvénients. C'était la solution historique. Le premier, c'est qu'il utilise du coup un Chromium, et le Chromium, il est embarqué dans Electron. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un binaire plus gros et parfois Chromium, il n'est pas très copain avec l'OS dans lequel on va exécuter le logiciel et du coup ça peut poser des petits soucis. Tori, c'est la même chose sauf qu'ils n'embarquent pas de navigateur, ils utilisent le navigateur de l'OS. Donc ça permet en fait d'être beaucoup plus léger et parfois plus performant. Donc ça, c'est un avantage qui est vraiment bien. Et le deuxième aspect qui est très différent, c'est qu'ils utilisent pour le back-end Tori. Donc, mm-hmm. Tori, Rust.
Quoi. Rust. Ouais.
Ouais, comme je vous disais, 6 heures et de train, ça fait un peu mal.
tu dis le browser, il n'est pas embarqué, ça utilise WebView 2, c'est ça hein.
Je ne sais pas exactement comment ils font en interne, ouais, okay. Mais ils doivent utiliser en effet la WebView du système. Un peu comme on le fait sous Android ou sous iOS avec les différentes technologies comme React Native et compagnie. Mais là, du coup, j'utilise la WebView de l'OS et ça
OK.
permet des gains de
Ouais.
performance très sympas. Et le Rust, du coup, alors moi, ma vision du Rust, c'est très simple, c'est que c'est les performances du C, mais avec les problèmes de mémoire en moins. Et du coup, bah, ça permet d'avoir un logiciel qui peut avoir de très bonnes performances. Il y a quand même
Et
des inconvénients à Tori, c'est que c'est quand même assez encore expérimental, donc on joue avec des petits problèmes d'intégration, ce genre de choses.
ça produit aussi un binaire qui est relativement petit, quoi.
Ouais, bah, comme le
Comme le
Chromium,
C, ouais.
enfin n'est pas intégré, ça aide beaucoup.
D'accord. Donc ça, j'allais dire, c'est pour Tori et Rust, c'est pour l'habillage, mais après
Oui.
la partie
Le
translate,
moteur.
le
Ouais.
moteur, ouais.
Donc le moteur, j'utilise l'ASR, donc c'est pas un LLM, hein, ASR Automatic Speech Recognition. Donc c'est des modèles IA, mais qui prennent en entrée un point wave ou enfin un audio et qui vont sortir une transcription. Et c'est NVIDIA Parakeet. TDT, d'ailleurs, c'est dur à dire. TDT. Pourquoi ce modèle? C'est un modèle qui est assez incroyable parce que déjà il est très très léger, c'est seulement 600 millions de paramètres comparé au concurrent qui était historique qui était Whisper qui était je sais plus exactement, il y a 1,5 milliard, c'est deux fois, enfin plus que deux fois moins. Du coup, le nombre de paramètres, pourquoi c'est important? Parce que c'est ce qui détermine l'usage en RAM ou en VRAM qu'on va avoir besoin sur un OS pour le faire tourner. Donc 600 millions de paramètres, il y a une règle c'est un peu foireux, mais pour faire vite, on peut se dire ben, le 600 millions de paramètres, c'est 600 mégaoctets, 1,5 milliard de paramètres, c'est 1,5 gigaoctets de RAM qu'on va avoir besoin. C'est imparfait, je pense que s'il y a
Ouais, des
voilà,
puristes.
des data scientists ou des
Ouais.
IA scientists, ils vont un peu me reprendre, mais pour faire vite, c'est pas mal.
Ça donne un ordre de grandeur, quoi.
Ouais. Donc, avec un modèle de ce type-là, bon, bien sûr, il est quantisé, donc il est encore réduit côté murmure, eh bien, on a des performances qui égalent des modèles qui ont deux fois plus de paramètres. C'est ça qui est assez incroyable. Donc, il y a une mesure, c'est un indicateur qu'on appelle le WER, je crois que c'est-à-dire Word Error Rate. Et plus il est bas, généralement, et moins il y a d'erreurs de transcription entre ce que dit la personne et ce qui va être transcrit. Et quand on regarde Parakeet, ce modèle qui a que 600 millions de paramètres, eh bien, il a des Word Error Rate en dessous que des modèles comme Whisper.
Il
Donc,
faut dire aussi
c'est.
qu'il est multilingue, hein.
Et il
Oui.
est multilingue, 25 langues européennes. Il n'y a pas toutes les langues, mais enfin, il a les langues européennes qui étaient ma cible en tout cas. Donc vraiment un modèle très impressionnant, qui est très performant même en termes vitesse, puisque quand on essaye de transcrire avec Murmure, sans la fonctionnalité LLM, c'est quasiment instantané.
Ouais.
Et ça tourne sans GPU. Juste sur du CPU. Donc, quand on met tout ça bout à bout, Tori, Parakeet, etc., bah, ça fait un logiciel qui peut tourner sur des machines qui ne sont pas très puissantes, et notamment des machines, on le verra après sur les utilisateurs, mais des machines qui se trouvent dans les hôpitaux, etc.
D'accord. Ouais, non, c'est vrai que c'est assez impressionnant, hein, au niveau de la rapidité. C'est que, bon, enfin, moi, j'ai jamais eu de problème. Je sais pas, toi, Laurent, si tu as.
Non, avec le LLM un peu, c'est un peu plus lent, effectivement, mais ça corrige aussi pas mal de choses, de temps mort, de je ne sais plus ce que je veux dire, etc.
Ouais,
Donc de ce
ça t'arrive
côté-là,
jamais, toi.
ben si, quand même, un petit peu, mais un peu moins qu'à toi, mais quand même. Non, franchement, c'est vraiment bluffant comme modèle. Moi, j'étais vraiment bluffé. Du coup, je l'utilise vraiment de plus en plus partout. Avant, j'utilisais Windows H, le
Ouais.
truc de Microsoft, ça marchait, tout ça, ouais. Pour moi, ça marche mieux ce système-là. J'utilise vraiment pour tout, même pour répondre dans Slack à des messages de chat au boulot. Quand tu fais une code review, ben, les commentaires, je les tape quasiment plus, je parle. Je parle plus vite que je tape, donc je suis
Ouais.
très mauvais au clavier, donc
Ah, mais c'est tout le monde,
voilà.
hein.
Ouais.
Le clavier, quelqu'un qui écrit rapidement, il va être à 60 mots par minute. Lorsqu'on parle à ce rythme-là, par exemple, je suis à 180 mots par minute. Donc, en termes, c'est un outil de productivité. De base, j'ai développé Murmure pour moi parce que je tapais beaucoup, que ce soit pour parler pour sur des IA agentiques, Claude Code
Ouais,
ou
pareil.
ChatGPT. Et après, quand on commence à utiliser ça, on l'utilise aussi pour le chat, pour prendre la prise de notes, pour tout. Et c'est là où le LLM il devient très puissant.
Ouais,
Mais
c'est vrai que les agents, moi, c'est aussi toute la journée, là, je parlais avec des agents et j'utilise Murmure pour faire ça, quoi, maintenant, quoi.
ouais.
Ça va tellement plus vite, quoi.
Alors la différence par rapport au narrateur là, de Windows, là, le Windows H, c'est que Windows H, le narrateur, il écrit au fur et à mesure. Alors que dans Murmure, on dit quand on commence et on dit quand on a fini, quoi.
Ouais, alors c'est le mode streaming. Parakeet, en théorie, peut le gérer. J'ai pas voulu le faire parce que, notamment pour la fonctionnalité LLM, ça me faisait perdre plus de temps qu'autre chose. Et la fonctionnalité LLM, en gros, ce que je fais, c'est que je transcris la voix avec Parakeet, j'ai un texte brut que je vais donner à un LLM pour le corriger. Le corriger en fonction de ce que veut l'utilisateur. Et je ne peux pas lui envoyer des morceaux de texte. Il a besoin en fait du texte en entier pour comprendre en fait de quoi je parle, comment le corriger, etc. Et du coup, très vite, je me dis, bon, je ne vais pas m'embêter avec un mode streaming alors que j'avais déjà ça en tête. Je vais directement coller directement. Et puis, le mode streaming, mine de rien, il est un peu moins rapide. Parce que si je fais du streaming, ça veut dire que soit j'écris lettre par lettre, soit je fais en fait, c'est le petit hack derrière Murmure, c'est je mets dans le presse-papier, je déclenche le raccourci coller, donc CTRL V, pour écrire là où il y a le curseur. Et si je fais ça plusieurs fois, en fait, ça va forcément être moins rapide que si je le fais une fois. Et c'est tellement rapide la transcription que je perds en rapidité d'écriture si je le fais en mode streaming.
D'accord.
C'est marrant, tu parlais du copier-coller, enfin du coller plutôt. J'ai remonté un bug dans les outils de JetBrain là, pour Rider, justement pour l'AI, parce que je parlais avec Murmure, et le Rider, il partait en cacahuète complète. Et apparemment, ils l'ont fixé. Donc, c'est cool.
Ah, génial. Mais dans la prochaine version là, qui va sortir vraiment dans pas longtemps, l'utilisateur va pouvoir décider du mode d'écriture, justement. Parce que le petit hack du CTRL V, donc c'est ce qui me permet aussi de ne pas lire, alors je ne sais pas comment on pourrait faire d'ailleurs, mais de garder le côté confidentiel. Là où on écrit, je n'ai absolument aucun contexte. Et ce serait grave de l'avoir parce que ça voudrait dire que commence à lire ce qui se passe, des dossiers patients ou je ne sais pas ce que je pourrais lire, qui serait vraiment confidentiel. Et du coup, le petit hack, en effet, c'est je transcris, je mets dans le presse-papier, CTRL V, j'écris. Mais il y a des logiciels qui interceptent le CTRL V, qui ne sont pas très copains avec, notamment les terminaux, par exemple le terminal sous Linux Mint, il n'aime pas trop le CTRL V. Lui, il faut CTRL SHIFT V, par exemple, pour écrire dans le terminal, ce qui n'est pas le cas de Windows et macOS. Et c'est pour ça que j'ai donné maintenant dans la version 1.7, il va y avoir trois modes d'écriture qui vont être le CTRL V, le CTRL SHIFT V ou le Direct Input, c'est-à-dire vraiment simuler, j'appuie sur chaque lettre du clavier, ce qui est un peu plus lent, mais qui permet de faire fonctionner Murmure sur des logiciels un peu récalcitrants.
Une petite question, t'as tout ce matériel-là pour tester Windows, Linux et Mac?
J'ai un dual boot Linux et Windows et je vais faire une petite confession, c'est que sur Mac, en effet, c'est un peu le parent pauvre parce que là pour le coup, c'est les contributeurs qui me disent ça marche pas, mais j'ai un peu moins
D'accord.
du UX, on va dire, sur macOS.
OK.
Ouais, moi, si je puis me permettre une petite critique, et c'était la même chose d'ailleurs pour le narrateur de Windows, c'est que moi j'ai un écran qui est un peu grand, quoi. Et si tu veux, j'ai la zone de saisie où je dois dicter mon texte et l'endroit où est la petite icône qui montre que Murmure est bien en train de tourner, ils sont à des kilomètres, quoi. Donc, ce que j'aimerais bien, c'est que le logo soit juste au niveau de la zone de saisie, quoi. Mais ça, il faudrait connaître les coordonnées, au niveau de l'interface, quoi.
Alors oui, en théorie, c'est possible parce que j'utilise. Alors, je ne sais pas si tu es sur Mac, Windows, Linux. Ça
Windows.
dépend.
Ouais.
Windows, du coup, j'utilise. Ok, alors sur Windows, je ne sais pas parce que j'utilise Windows 6 pour capturer des événements clavier et input. S'il le permet, c'est peut-être possible. Sous Linux, en tout cas, c'est possible. J'utilise RDEV. En fait, chaque plateforme, c'est très compliqué les raccourcis, mais
Ouais.
sur chaque plateforme, j'ai des librairies différentes. Sur RDEV, c'est complètement possible de récupérer la position de la souris. Après, il y a quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est que je cherche à garder le code le plus simple possible, parce qu'un code simple, c'est un code qui va être maintenable et sur lesquels on peut contribuer, etc. Si je commence à faire des choses de ce type-là, ça peut complexifier un peu trop, et après, je vais juste abandonner le logiciel parce que plus personne n'aura envie de travailler dessus, quoi.
Ouais.
Donc, je ne sais pas si ça, c'est bien en termes de performance. Il faut que j'étudie vraiment. Quand j'ai des suggestions comme ça, je dis jamais oui ou non. Il faut que j'étudie, que je vois l'impact dans le code avant pour bien comprendre ce que je fais, et sur les trois plateformes aussi.
Bah, je pense que tu as raison. Moi, j'étais à la limite d'ouvrir une issue pour faire une proposition, juste d'avoir le graphique qui s'affiche là, enfin
Ouais.
l'indicateur qu'on est en train d'enregistrer plus grand. C'est tout. Ou alors, tu peux, une option pour définir plusieurs
La
tailles, par
taille.
exemple, tu vois.
Oui, c'est une bonne idée, ouais.
Ok.
Ça, pour le coup, c'est réservable.
Et donc, tu as la possibilité de connecter avec un LLM. Donc.
Oui, donc la connexion se fait via Oliama, qui est une techno qui permet d'héberger des LLM locaux. Je ne le fais pas nativement parce que c'est quand même très compliqué. Déjà, pour faire fonctionner un modèle comme Parakit, pour que s'il y a des développeurs pour qu'ils comprennent, c'est pas juste je fais une porte librairie et ça marche. C'est enfin une porte Parakit et ça marche. C'est pas du tout ça. Il y a toute une notion. Un modèle, c'est juste des fichiers de texte, enfin des caractères ou des nombres qui correspondent à soit des paramètres, vraiment les paramètres de chaque neurone du modèle, soit les tokens qui correspondent aux caractères que je vais écrire. Et en gros, c'est que des fichiers texte. Et ça, il faut le faire tourner, il faut avoir le modèle mathématique, le runtime. En plus du runtime, il faut avoir quelque chose qui permet de dire, bah, est-ce que je vais exécuter le modèle de côté GPU, côté CPU, combien de RAM je vais prendre, etc. Donc tout ça, c'est assez compliqué. Donc sur un ASR type Parakit, ça se fait assez bien. Pour gérer des LLM, ça commence à être. Enfin, moi, j'ai
Ouais.
préféré utiliser enfin, une librairie qui sait bien faire ça. Moi, je me suis dit, c'est pas mon boulot. Donc j'utilise Oliama. Donc il faut avoir une dépendance qu'il faut télécharger qui est Oliama. Mais une fois qu'on l'a téléchargé, derrière, il y a tout l'onboarding côté Murmure qui permet de télécharger le modèle, l'utiliser, de configurer le prompt à chaque transcription. Et c'est ultra efficace dans des cas où on a du vocabulaire spécialisé. Par exemple, un médecin, quand il veut remplir un dossier patient, il va avoir des noms de médicaments, une façon, enfin des noms du domaine hein, spécialisé. Et le LLM, ça, il va comprendre bien mieux. Donc, il va pouvoir corriger la transcription, parce qu'un LLM, il comprend aussi même la version, on va dire, phonétique d'un mot écrit. Et il va pouvoir faire un rapport nickel. Ça permet aussi de faire du formatting type paragraphe aéré, des listes à puces, enfin, ou même de parler français et écrire en anglais. Par exemple, moi j'utilise beaucoup quand j'écris sur GitHub, je parle en français et ça écrit en anglais. Et tout ce post-processing, en fait, on fait ce qu'on veut, puisque le prompt est configurable complètement, bah, il est permis grâce à Oliama et au LLM qu'on va télécharger. Sachant que j'en recommande trois qui sont Ministral, des modèles, qui est
Ouais.
le modèle donc de Mistral qui est sorti il y a peut-être quelques mois, enfin vraiment il n'y a pas longtemps, et qui est assez puissant pour un modèle local. Et en fonction de la puissance du PC, ben, vous avez des modèles qui demandent un peu moins de puissance, notamment Qwen 3 à 4 milliards de paramètres.
Ouais, c'est-à-dire que ce que tu fais, c'est que une fois que tu as récupéré le texte qui a été traduit par Parakit, tu l'envoies et tu l'envoies au LLM, mais avec un prompt système qu'on peut paramétrer à l'intérieur de Murmure, quoi.
Exactement. Avec des presets, parce que j'ai fait un preset pour chaque type d'utilisateur que j'avais. Dans les presets, j'ai le prompt général qui permet juste de faire d'améliorer. Je peux parler, on va dire, à l'arrache, et il va faire un beau texte un peu plus diplomatique, reformulé, etc. Parce que beaucoup d'utilisateurs, en fait, souvent ce qu'ils font, c'est qu'ils vont écrire un premier texte, ils vont copier, mettre dans ChatGPT, reformule, améliore, voilà. Puis après, je
Ouais.
copie ce qui est dans ChatGPT, je reviens. Donc ce pr premier précepte, il permet d'éviter ça. On va reformuler immédiatement correctement. Et j'ai des presets pour le monde médical, parce que j'ai beaucoup d'utilisateurs, des urgentistes ou qui travaillent dans les hôpitaux, des médecins, etc., qui ont un besoin de transcription vraiment énorme.
Spécifique, ouais.
Ah oui, vraiment très spécifique. Et j'ai bien sûr mon cas qui va être le développeur agentique, je ne sais pas si on peut dire ça, mais qui va devoir parler aux agents. Et là, on a un vocabulaire technique spécialisé développeur. On fait du franglais. Quand on donne des noms d'objets, il faut que ce soit du Pascal case, généralement. Quand c'est des noms de fichiers, c'est du hyphen case, donc avec des tirets tout minuscules, etc. Et du coup, ça permet de le corriger. Chose qu'un le modèle pur de Parakit, là, il va avoir du mal.
Ouais. Et tout ça, comme tu disais, tout ça, c'est en local et on n'a pas besoin d'avoir à envoyer ça dans un LLM à distance, quoi.
C'est très important que ce soit en local, en effet, et tu fais bien de le rappeler. C'est que des LLM locaux, et du coup, grâce à ça, Murmure, ça devient une petite interface vocale en mode LLM, une sorte de mini chat GPT
Ouais.
qui tourne sur le PC.
Ok. Et donc là, il y a actuellement, là, au jour où on enregistre, on est le 6 février, on a la version 1.6, il y a la version 1.7 qui va sortir bientôt, là, d'après ce que tu
Oui,
disais.
ils viennent nous teaser une feature de la 1.7, parce que
Voilà.
les profils pour les LLM, c'est la 1.7, je crois, non? C'est pas encore dans
Oui.
la 1.6.
Ouais, c'est ça, ouais.
Ouais,
Qu'est-ce qu'il y aura alors dedans?
Alors, c'est une grosse release. Là, elle est en phase de bêta testing. Donc, bien sûr, s'il y a des personnes qui veulent absolument avoir, vous allez sur GitHub, vous clonez, vous buildez et vous aurez la version 1.7. Ce
C'est
qu'il
ce
y a
que j'ai
dedans,
fait le
donc.
week-end dernier.
Il y a eu quelques petites corrections qui sont arrivées, je pense.
Entre temps.
Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle contient? Elle va contenir quand même deux fonctionnalités qui sont assez phares. Donc, la première, c'est les commandes. Donc, les commandes, ça, c'est vraiment très sympa. Moi, je n'ai pas résisté, j'attends pas les releases hein, pour utiliser le logiciel quotidiennement. Ça permet, en fait, de sélectionner du texte, par exemple, et de le transformer avec ce qu'on va dire. Par exemple, j'écris un texte un peu rapidement, je le sélectionne, je vais dire corrige les fautes d'orthographe. Et il va transformer le texte, il va corriger les fautes d'orthographe. Je peux lui dire de traduire dans une autre langue, et je peux, si vraiment je veux aller vite, je peux même lui dire de générer carrément le texte. Je peux ne pas sélectionner du texte, appuyer sur raccourci de commande et dire généralement un template de mail qui s'adresse à Richard pour le podcast devdevdev.net. Et il va me faire une structure que je vais pouvoir remplir. Donc,
Juste une question, parce que là tu m'as perdu sur un point, c'est tu dis tu sélectionnes du texte, mais ce texte il est où? N'importe où? Dans n'importe quel outil?
il peut être n'importe où. Après, il faut que ce soit du texte qu'on puisse modifier, parce que sinon, la transcription, elle va se perdre. Parce que ce qui se passe concrètement, c'est quand on va sélectionner le texte, là aussi, je vais utiliser un petit hack qui est le copier. Je vais copier le texte pour le mettre dans le presse-papier, qui est en fait une sorte de zone mémoire partagée. Je vais lire ce qui se passe, appliquer le prompt qui correspond à la voix, enfin ce que la personne a dite pour transformer le texte, et la réécrire avec un collé. Donc si on le fait sur un site web, par exemple, qu'on sélectionne tout et qu'on utilise la mode commande, on ne va pas modifier le site web. Alors il y aura une transcription qui sera écrite dans l'historique de Murmure, mais voilà. Bon, peut-être ça peut être utile mais ce n'est pas un cas que je vise encore.
D'accord.
Ouais, j'espère que c'est plus clair. Après, il y a des fonctionnalités sur des améliorations, notamment sur le dictionnaire, parce que maintenant on va pouvoir importer, exporter les mots de vocabulaire, parce que dans Murmure, il y a un dictionnaire qui permet d'enrichir le vocabulaire de Parakeet pour des mots qu'on va utiliser très souvent. Moi, bah, par exemple, si on dit Tori, comme on disait tout à l'heure, c'est la technologie de Murmure. Tori, ça s'écrit Tauri. Mais si je dis moi j'adore Tori à Parakeet, lui va comprendre Tori. Il a absolument aucune idée que Tori, ça s'écrit Tauri. Alors Tori, Tauri, ça doit exister en plus s'il écrit. Mais le fait de mettre Tori, Tauri, qui sonne de manière phonétique, qui est très similaire à Tori, Tauri, bah, ça permet à Parakeet de corriger ce terme-là. Donc après, quand on écrit « Moi, j'adore Tori », il va écrire Tori, Tauri.
Ouais,
Donc,
les noms, c'est pratique pour les noms de société. Quand on bosse dans une société, moi c'est ce que j'ai fait là pour les différentes sociétés avec qui je travaille. Je les ai rajoutées et puis voilà, comme ça. Je suis
moi,
tranquille.
j'ai mis le nom de notre produit, donc ouais, ça marche bien, hein.
Ouais.
J'ai juste une petite limite sur. On ne peut pas mettre de chiffres, de nombres dans le nom, ni d'espace, ni de tiret. C'est la petite limite du dictionnaire. Je prévois de l'améliorer, mais bon, ce sera pour autre chose. La deuxième fonctionnalité phare, c'est que la fonctionnalité LM Connect, elle a tellement bien fonctionné que très vite, on m'a demandé de ne pas avoir qu'un seul prompt. Parce que dans la version 1.6, je mets un prompt, mais si je veux, OK, le général, ça m'intéresse, le précepte général qui permet de reformuler bien comme il faut, mais le précepte de translation, il m'intéresse aussi parce que je veux pouvoir traduire dans une outlog quand je parle, et aussi peut-être je suis un développeur et je veux développer, et peut-être je suis un médecin et je veux, etc., etc. Et du coup, ça, c'est la deuxième fonctionnalité phare, c'est il y a une refonte de LLM Connect avec du multi-prompt. Donc l'idée, c'est qu'on appuie sur un raccourci et on peut basculer de mode. Et même chaque mode peut avoir son propre LLM, parce qu'il y a des LLM qui sont meilleurs pour certaines transformations que d'autres. Donc on peut très bien imaginer un LLM médical, par exemple, qui va appliquer une correction médicale sur un des modes. Et puis sur un autre mode, on veut quelque chose qui respecte vraiment l'instruction donnée par l'utilisateur de manière 100%, et on va utiliser un modèle type Qwen ou quoi, ou un autre Mistral, et voilà. Donc il y a une grosse refonte de la partie LM Connect. Et après, alors, il faut que je vois la roadmap parce que je ne m'en rappelle plus exactement. Comme j'utilise.
Entre-temps, moi, je dois dire que j'ai réfléchi à des utilisations, mais le truc de traduction, j'y ai pas pensé. C'est une super idée.
Ah bah, moi, j'avoue que je lis très bien l'anglais, je le comprends très bien à la lecture, je le parle très très mal et je l'écris très mal. Donc, plutôt que de parler, de dire à chaque fois ChatGPT, bon, vas-y, je veux dire ça, et fais-moi un paragraphe correct, bah, en fait, maintenant, je m'embête plus, ça me fait gagner un temps fou.
Ah, tu
J'appuie
m'étonnes.
sur le mode traduit en anglais, je parle en français, et hop, entrée, terminée.
Ah, ça, il faut que
Donc,
j'essaye. Ouais.
voilà. Et après, dans la roadmap, il y a quand même des trucs sympas, notamment sur le côté privacy, parce que aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de speech to text. Murmure, c'est vraiment pas le premier et c'est pas le dernier. En plus, maintenant que Parakeet, je pense j'étais un des premiers quand Parakeet est sorti, à l'avoir utilisé dans un speech to text, ça est en train de se démocratiser parce que c'est vraiment un super modèle. Et du coup, ça permet de faire du local. Et souvent, il faut. Alors, je veux pas critiquer. J'ai vraiment pas de problème avec les concurrents. Je gagne rien en plus. Enfin, il n'y a pas de financement ou quoi que ce soit. Mais ça m'énerve un peu quand les speech tech disent: Ah, moi, je respecte la vie privée parce que je suis en local. C'est pas suffisant d'être en local. Est-ce que tu stockes les transcriptions sur le disque? Parce que si tu les stockes, ça veut dire qu'on peut te les voler. Ça peut être dangereux. Est-ce que tu fais gaffe dans les logs? Et est-ce que tu supprimes l'audio? Parce qu'en réalité, tous les speech-to-text, ils enregistrent la voix, donc ils font un point wave, et c'est ce point wave qu'on va donner à Parakeet. Est-ce que tu gardes cet audio? Comment tu le fais si l'application est crash, etc., etc., etc. Et sur Murmure, on stocke pas au-delà de 5 transcriptions sur le disque. Et si on veut, on peut même rien stocker sur le disque et mettre tout en RAM. Les logs, elles ne sont pas stockées. Alors, ça m'embête un peu parce que du coup, il y avait pas mal d'utilisateurs, quand ils avaient des problèmes, bah, ils ne pouvaient pas me montrer les logs. Donc, ce n'était pas bien. Donc, une des fonctionnalités qui a été ajoutée, ça a été sur ça. Ça a été de faire des logs, mais qui ne mettent pas les transcriptions dans un
À
log, donc qui soient
l'intérieur.
écrites. Les audios, ils sont. Avant, je les supprimais systématiquement à chaque fin d'enregistrement. Mais on m'a remonté, et à raison, je n'avais pas fait attention, que bah, si Murmure crash. Juste avant que
Ah
j'efface ce
ouais.
fichier,
Ouais.
potentiellement l'audio va
Ouais.
rester. Donc maintenant je le mets dans des dossiers temporaires de chaque OS qui permet, même en cas de crash, si le PC redémarre, il sera effacé et il ne sera pas sauvegardé. Bon, de toute façon, il n'y avait qu'un seul enregistrement qui était stocké, donc dans le pire des cas, il aurait pu récupérer qu'un seul enregistrement, mais quand même. Donc il y a une amélioration aussi du côté protection de la donnée. Et plein d'autres améliorations diverses. Il y a eu des bugs aussi fixés sur macOS. Je sais que sur LM Connect, il y avait un bug spécifique sur macOS où, quand on essaie de le configurer, il y avait des petites erreurs graphiques. Bon, tout ça, c'est corrigé, quoi.
Ouais, d'accord. Ouais.
Et co comment tu récupères tes besoins utilisateurs? Parce qu'il n'y a pas trop d'issues sur GitHub. Donc, tu as des contacts directs des utilisateurs, j'imagine.
Alors, ton intuition, elle est bonne. Alors, j'ai quand même pas mal d'issues. Hein. sur GitHub, c'est juste que je les traite, du coup, elles sont closed. Mais si tu vas dans
OK.
closed, tu verras qu'il y a, il y a beaucoup d'issues et il y a aussi des utilisateurs qui me font des retours et qui aiment vraiment, qui adorent Murmure et qui sont impliqués, pas forcément dans le côté contribution écriture du code, mais dans le côté contribution sur tout les moindres problèmes de l'application en
Non,
termes UX, UI ou autre.
c'est ça.
Et du coup, ça, c'est des retours qui sont très riches parce que comme je ne traque rien,
Tu m'étonnes.
je suis aveugle sur comment l'utilisateur utilise Murmure. Et le deuxième canal, ça c'est clair, c'est LinkedIn. Il y a énormément d'utilisateurs qui me contactent en direct pour me dire, ah bah tiens, moi j'ai testé, j'aime bien Murmure, mais quand je fais ça, ça marche pas. Ou alors quand je fais ça, bah, on pourrait faire enfin, des suggestions ou autre. Donc c'est les deux canaux qui sont utilisés. Ouais.
D'accord.
Et c'est
Et
important parce que si j'ai pas ça, moi j'ai aucune donnée. Hein.
C'est clair. Et au niveau contributeur sur GitHub, tu as du monde ou c'est un peu Waterloo, morne pleine?
Alors, c'est un peu particulier. J'ai une vingtaine de personnes qui ont contribué. Par contre, des contributeurs, on va dire, qui tiennent dans le temps, qui continuent de
Ouais.
contribuer, non, j'en ai pas.
D'accord.
T'as pas dit, ça fait combien de temps que tu l'as commencé le projet?
L'ai commencé fin d'année 2025. Je crois que c'était. Alors, en fait, non, je l'ai release. Pardon, je l'ai release. J'ai dû le release en novembre 2025. Je ne sais pas exactement, mais ça doit être dans ces eaux-là.
D'accord.
Je l'ai commencé avant parce que j'ai mis du temps avant de vouloir le mettre open source. Parce que je l'ai développé pour moi, je ne l'ai pas développé de base pour la communauté. Et c'est très égoïste ce que j'ai fait parce que je l'ai mis open source pour une raison, c'est juste en termes de notoriété sur LinkedIn et c'est tout, quoi. Je me dis, bon, de toute façon, je ne m'attendais pas à ce qui fonctionne. Je vais le mettre open source, comme ça, bah, les gens, si jamais, on ne sait pas ce que le futur nous réserve, mais.
Exactement.
On peut voir que je travaille dans l'open source, que ça ne me dérange pas, et voilà, les gens peuvent voir le code, et s'il y en a qui peuvent l'utiliser, tant mieux. Puis en fait, il a fait un petit buzz, et c'était pas forcément voulu.
Ah, très bon
Et donc
choix.
voilà.
Franchement, très bon choix de l'avoir mis en open
Ouais.
source.
Et ça te prend du temps ou sur une
Ah,
semaine type
moi, j'applique une philosophie qui s'appelle le No Zero Day, c'est-à-dire que l'idée, c'est que tous les jours, je travaille sur le mur.
D'accord.
Donc j'ai un travail à côté, et en plus de ça, bah, j'ai un bébé, j'ai une femme, donc j'ai une vie privée. Je passe, je pense, 30 minutes, 1 heure sur mon mur tous les jours.
D'accord.
Ok, super. Et il y a une fonctionnalité que j'ai utilisée qui m'a bien plu, dont tu n'as pas parlé. C'est le fait d'exposer un serveur web où tu peux uploader un fichier et récupérer le texte. Un fichier Wave et récupérer le
Ouais.
texte. Moi, je l'ai utilisé, ça, c'était, ça marche nickel aussi, quoi.
Bah, c'est vrai, en fait, moi j'adore les logiciels open source notamment, comme Oliama, ça je trouvais ça génial. C'est que tu installes Oliama, mais c'est pas juste. D'ailleurs, moi sur Linux, je savais même pas qu'il y avait une interface graphique dans laquelle il y avait un chat, etc. Mais sur Windows et Mac, il y a une interface où on peut chatter comme ChatGPT. Mais quand on installe sur Linux, en fait, c'est juste un truc qui tourne en rond, enfin qui tourne en background, et on interroge en mode API. Mais ça, je me disais, putain, c'est génial. Ça veut dire qu'en fait, on peut avoir Oliama qui va s'occuper de la partie LLM, Murmure qui va s'occuper du moteur de transcription de l'OS un peu. Et du coup, bon, ça reste expérimental parce que je fais aucune amélioration dessus. Elle est simple, l'API. Mais du coup, on peut l'appeler en ligne de commande. Et ça, c'est très sympa. Donc, un petit curl avec un point wave et hop, on a la transcription derrière. Et ça
Je
permet
voulais
de. Oui.
juste automatiser des commandes. Je suis pas allé jusqu'au bout, mais tu vois, allume la lumière, éteins la lumière, ce genre de choses, quoi.
Alors ça, c'est très sympa. Mais c'est vrai que je ne suis pas allé très loin dans l'usage. Il y a juste une petite API qui permet de l'appeler en ligne de commande et c'est tout, quoi.
Ok, bon, bah écoute, merci pour cette présentation. Donc, si vous voulez tester Murmure, je vous invite à aller sur le GitHub. Je me souviens plus s'il y a un site officiel ou pas. C'est
Oui.
Ya, ya, ya.
C'est murmure.al1x-ai.com. Pas facile, c'est pas bon en
Ah,
termes
d'accord.
vocal. Terme de
Bon,
com, c'est pas terrible.
on mettra le lien dans les notes de l'épisode. Et puis, bah, écoute, bah, bon courage pour la suite et j'invite tout le monde à tester ce logiciel.
Eh ben merci pour l'invitation.
Et bah, à la prochaine. Ciao tout le monde.
Ciao.
Ciao.